France Inter, le 6-9 du week-end, intervenez.
Intervenez au 01 45 24 7000, vos questions ce matin à Bruno Julliard, premier adjoint à la mairie de Paris, PS, en charge de la culture. On commence avec la question de côté de Patricia Martin.
Oui Bruno Julliard, vous m'autoriserez à évoquer votre vie privée puisque vous l'avez fait vous-même dans le magazine Têtu il y a quelques années. Vous aviez officialisé votre homosexualité sans jamais en faire un argument politique pour autant. En 2013, vous avez signé le manifeste en faveur du mariage pour tous dans le Nouvel Observateur. Et puis en juillet dernier, vous vous êtes marié. Alors aujourd'hui, on peut considérer que l'homosexualité n'est plus un sujet, le mariage pour tous non plus. Vous souhaitez, je l'ai lu, vous souhaitez fonder une famille, avoir des enfants. Est-ce que ça, vous allez le mettre en avant? Est-ce que vous sentez encore des freins? Et est-ce que ça, c'est aujourd'hui un sujet?
C'est de fait un sujet, puisque nous en parlons ce matin. Lorsque j'avais parlé de mon homosexualité publiquement, en réalité, j'ai toujours été très sensible à la différence entre la vie publique et la vie privée. J'avais été bouleversé par le livre d'Édouard Louis. Je n'ai personnellement jamais été, je le crois, victime d'homophobie. Même si il existe des phénomènes ou de fait de résilience qui fait que parfois on peut mettre de côté c'est ce qu'on peut nous-mêmes subir. Mais je ne crois pas l'avoir beaucoup subi. En revanche, je crois que l'homophobie est encore aujourd'hui un sujet. Et c'était une des raisons pour lesquelles je m'étais dit à l'époque que ça pouvait être utile, pas forcément pour moi, mais pour d'autres. J'en ai pas beaucoup reparlé après pour cette raison de cette distinction entre la vie publique et la vie privée. Pour répondre précisément à votre question, d'abord, je voudrais dire que aujourd'hui, l'homosexualité reste un sujet et l'homophobie est encore très présente. Il suffit de voir, je suis sûr que ce sera encore le cas, par exemple, après cette interview, je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, il n'existe jamais une seule journée sans que je sois moi-même attaqué par des attaques vraiment homophobes. Et c'est le cas pour bon nombre d'autres responsables politiques qui ont assumé leur homosexualité. Mais c'est vrai que je considère aussi, même si j'ai jamais été un militant actif dans les associations, j'avais choisi d'autres combats, mais je considère aussi qu'il est aussi de ma responsabilité de continuer ces combats de lutte contre l'homophobie et puis de poursuivre l'avancée des droits. Je souhaite personnellement fonder une famille. C'est évidemment pas simple, mais je pense que lorsque ce sera le cas, oui, je le dirai parce que je crois que ça pourra contribuer à faire avancer les choses qui ont encore besoin d'avancer.
Et à propos de votre époux Bruno Julliard, il y a aussi cette polémique. Quand l'affaire a été conclue l'été dernier, vous avez attribué à une célèbre salle des nuits parisiennes, le Showcase, sous le pont Alexandre III à Paris, attribué par la mairie de Paris donc, à la société Noctis. Et cette même société a parallèlement embauché votre époux. Est-ce que vous comprenez les soupçons de conflit d'intérêts que l'on vous reproche ?
Je les comprends d'autant moins, pour être honnête, y compris sur votre antenne d'ailleurs, que j'ai eu l'occasion, point par point, d'expliquer à quel point toute cette histoire était montée. Vous dites que j'ai attribué à un marché public, il se trouve que j'étais même pas membre du jury, et que pour l'attribution de ce marché en question, et qu'il a été attribué à l'unanimité par la gauche comme par la droite. Ensuite, vous dites que de manière simultanée, mon mari a été embauché par cette entreprise-là. C'est absolument faux, puisque c'est de nombreux mois après. Et mon mari a passé plusieurs entretiens d'embauche après avoir envoyé un CV suite à une annonce sur Internet. Je conclus en disant que dans ce même article, on faisait état d'un homonyme de mon mari, mais en mettant en avant un CV qui n'était pas le sien, puisque après une recherche un peu hâtive sur Internet, ils se sont trompés de Paul Le Goff, puisque c'est le nom de mon mari, et ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui habite à New York. Vous comprendrez donc que je donne assez peu de crédit à cet article tout à fait mensonger.
Dont acte. Les questions des auditeurs à présent, avec une première question de Jean-François. Bonjour Jean-François.
L'idée d'offrir cette œuvre d'art, là, le bouquet de tulipes à la ville de Paris, en fait, revient à l'ancienne ambassadrice des États-Unis à Paris. Donc, l'affaire se situe dans un contexte diplomatique un peu particulier. Et ma question était de savoir qu'il me semblait qu'il y avait un manque de concertation à l'heure actuelle entre, d'une part, la ville de Paris et puis le ministère de la Culture, puisque la ministre de la Culture doit recevoir prochainement l'artiste, Jeff Koons.
Alors, on va rappeler les faits. Effectivement, le plasticien américain Jeff Koons veut faire un cadeau, un bouquet de tulipes, une œuvre sculpture monumentale de plus de 11 mètres de haut qui devrait trouver sa place, de 12 mètres de haut qui devrait trouver sa place près du musée d'art moderne. Un cadeau, dit l'artiste, en hommage aux victimes des attentats. Finalement, il faudra débourser près de 3,5 millions d'euros pour l'installation. Est-ce un cadeau coûteux, Bruno Julliard?
Alors, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet à la fois diplomatique, comme l'auditeur vient de le dire. Il s'agit d'un cadeau de la précédente ambassadrice des États-Unis qui est partie après l'élection de Donald Trump. Donc une idée des États-Unis après les attentats de novembre 2013 et évidemment Paris, la France ne refuseront pas un cadeau d'une nation amie, qui plus est lorsqu'il s'agit de rendre hommage aux victimes des attentats de novembre 2015. Et puis il y a un sujet artistique et culturel.
Bon, l'artistique on va mettre de côté parce qu'après tout on pense ce qu'on veut de l'œuvre qui ne fait pas l'unanimité. C'est Tulipe dont on dit que ce n'est pas le meilleur de Jeff Koons.
Oui, enfin cela dit, lorsque nous mettons une œuvre d'art dans l'espace public, il y a inévitablement, même si c'est tout à fait subjectif, il y a inévitablement plusieurs questions qui se posent. D'abord sur le caractère esthétique de l'œuvre et en effet sur la pertinence du lieu d'exposition de cette œuvre. J'ai exprimé à plusieurs reprises des doutes qui sont toujours les miens aujourd'hui sur la pertinence de cette œuvre à cet endroit. Je ne suis personnellement pas convaincu, ce qui n'enlève en rien le fait qu'il faut accepter ce cadeau des États-Unis. Il y a l'aspect budgétaire dont vous avez parlé, économique. En effet, même s'il n'y aura pas d'argent public pour financer cette œuvre, puisque ce sont des mécènes qui financeront ces 3,5 millions d'euros.
Sauf qu'au final, la loi Aillagon fait que les deux tiers de cette somme seront finalement pris en charge par le service public.
C'est vrai, même si l'essentiel des mécènes, en réalité, ont abondé un fonds aux États-Unis et donc ne seront pas concernés par cette défiscalisation française. Je suis très dubitatif sur le lieu choisi par Jeff Koons lui-même. Nous lui avons proposé plusieurs autres lieux. Je pense que, au-delà du caractère esthétique, je trouve l'œuvre très massive pour cet endroit, au-delà d'un caractère assez banal de mon point de vue, mais par ailleurs, une œuvre aussi importante, 12 mètres de haut, entre le musée d'art moderne à la programmation exceptionnelle, le Palais de Tokyo, qui a une ligne directrice et artistique éditoriale qui favorise l'émergence, l'audace dans la création, je ne crois pas que ça corresponde à l'identité de ce qu'est devenu Jeff Koons et son œuvre. Ce qui ne veut pas du tout remettre en cause l'artiste lui-même. Simplement, le message m'apparaît assez contradictoire avec celui porté par le Palais de Tokyo comme par le musée d'art moderne. Je trouverais personnellement, mais encore une fois, là, il s'agit d'une opinion personnelle, je trouverais personnellement plus approprié un autre endroit pour accueillir cette œuvre.
Quel endroit ?
Nous avions proposé différents endroits, notamment des parcs et jardins, du côté de Bercy, par exemple. Le directeur, l'exceptionnel directeur du Petit Palais, Christophe Leribaud, me disait qu'il y a notamment un jardin derrière le Petit Palais, pas loin d'ailleurs de l'ambassade des États-Unis, qui est aujourd'hui pas particulièrement bien entretenu d'ailleurs et qui pourrait tout à fait, pourquoi pas, accueillir cette œuvre. On pourrait réfléchir à d'autres endroits. Il y a par ailleurs quelques considérations techniques qui la concernent en effet le ministère de la Culture. Voilà, c'est un sujet pas simple. Moi, je trouve plutôt sain d'ailleurs qu'il y ait ce type de polémique à Paris et en France. C'est bien qu'on n'accueille pas une œuvre comme ça sans que cela suscite des réactions, mais je crois que vous avez compris ce qu'était ma position.
On a bien compris. Et le ministère de la Culture qui tarde aussi à donner son veto.
C'est toujours l'actualité. Oui, pour des raisons, c'est pas simple. C'est-à-dire qu'il y a une dimension diplomatique et puis une dimension politique et culturelle.
On retourne au standard avec une question de Benjamin qui vous est adressée, Bruno Julliard. Benjamin, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Julliard. Pour redresser le PS, vous ne pourriez pas envisager d'arrêter la novlangue et la tautologie, ce que vous faites depuis ce matin d'une manière magistrale, vraiment fabuleuse. La tautologie, c'est le truisme, hein, c'est dire parler pour ne rien dire et enfiler des perles et des vérités tracées.
Ça, c'est un commentaire. La question qui va avec, c'est comment changer de paradigme quand on parle à votre place, Bruno Julliard. Vous avez le sentiment de, avec le PS, de tourner en rond, de faire de la tautologie?
Alors, j'ai pas bien saisi en effet la question de l'auditeur, mais que je remercie pour sa franchise de bon matin le samedi. écoutez, je pense précisément que, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour construire La gauche de demain, il y aura besoin, à mon avis ça ne va pas plaire à l'auditeur d'ailleurs, parce qu'il va probablement considérer que c'est aussi de la novlangue, mais je crois qu'il y aura besoin de bienveillance à tous les étages, c'est-à-dire qu'il va falloir du rassemblement, il va falloir de l'unité et il va falloir s'occuper des sujets qui préoccupent les habitants, qui préoccupent les Français et les Françaises. On peut considérer que parce qu'on ne parle pas de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on ne parle pas d'Emmanuel Macron, parce qu'on n'a pas envie de se prononcer sur des sujets qui alimentent l'actualité, eh bien on fait de la langue de bois. Mais moi ce qui m'intéresse c'est plutôt le débat d'idées, c'est plutôt le travail, c'est plutôt ce rassemblement. Et personnellement, même si ça ne plaît pas à cet auditeur, c'est ce que je continuerai à faire.
À propos de rassemblement, on n'a pas très bien compris à la mairie de Paris si Anne Hidalgo voulait se représenter, être candidate à sa propre succession pour les municipales de 2020.
Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui vais répondre à cette question. Encore une réponse qui ne va pas plaire à l'auditeur précédent. Mais je vous suggère de l'inviter, probablement qu'elle vous le dira. En tout cas, ce que je peux vous dire au quotidien, c'est que Paris l'intéresse beaucoup, l'occupe complètement, à 100%. Et je crois comprendre qu'elle a envie de continuer à s'en occuper et à y consacrer tous ses efforts pendant encore plusieurs années.
Oui, notamment quand on revoit les quelques bouleversements qui sont arrivés dans son cabinet avec le retour de quelques conseillers en information et à la communication. À propos du PS, Conseil national aujourd'hui, vous auriez aimé la candidature de Najat Vallaud-Belkacem, que finalement elle ne sera pas candidate. Vers qui va votre choix parmi les différents, les quatre ou cinq candidats si Delphine Bateau peut participer?
Oui, j'ai pas encore connaissance de l'ensemble des candidats. Je trouve que Najat, qui est une amie personnelle, aurait été une bonne candidate parce qu'elle avait le bon positionnement politique et puis la carrure, l'aisance pour mettre tous les socialistes et bien au-delà au travail et essayer de les rassembler et à terme dépasser le PS. Donc il faudra trouver ses qualités chez quelqu'un d'autre. J'ai le sentiment que la capacité de rassemblement et de travail va plutôt se porter sur la candidature d'Olivier Faure.
Qui fait figure de favori.
Oui, pas uniquement parce qu'il est favori, mais parce que de ce que j'en connais de lui, j'ai le sentiment qu'il peut avoir cette capacité de sérieux et de rassemblement. Je me prononcerai quand même pas de manière définitive aujourd'hui pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure, à savoir que ce qui est pour moi déterminant, c'est d'éviter les tactiques, les positionnements purement stratégique par rapport à la France insoumise ou par rapport à En Marche, mais plutôt cette capacité ou pas à dépasser le PS d'aujourd'hui pour créer une grande force de gauche, social-démocrate, européenne, écolo, dans les années qui viennent. Ça prendra du temps. Donc si l'objectif aujourd'hui, c'est uniquement de préparer la liste aux européennes de l'année prochaine, ça ne m'intéressera pas beaucoup. Mais si en revanche, on est dans une perspective de refondation réelle de la gauche, d'essayer de dépasser des clivages d'aujourd'hui, de réinventer un corpus idéologique, alors j'en serai. J'espère avec Olivier Faure, peut-être quelqu'un d'autre, mais j'attendrai encore un peu avant de me prononcer.
Eh bien, merci Bruno Julliard d'être venu le dire ce matin sur l'antenne de France Inter.